marine.
Vivre et travailler sur la mer et le littoral.
Un projet étudiant porté par Radio.
Mathis Delmer. Bonjour Mathis, nous t'avons rejoint aux Ateliers de l'Enfer à Douarnenez. Ce centre de formation propose depuis les années 80 de former des professionnels en charpente de marine, voilerie et sellerie. Ici, tu te formes à la construction et à la restauration de bateaux. Nous sommes au bord de la Ria, sur les quais de Port-Rue. Parmi les bars, l'atelier donne vers l'extérieur. Ça sent bon la sciure de bois. Est-ce que tu peux nous faire un rapide tour de l'atelier en nous présentant le matériel que vous utilisez au quotidien ?
Bienvenue aux Ateliers de l'Enfer. Donc ici, il y a trois formations, les voiliers et celliers qui sont dans le bâtiment juste derrière et la charpente qui est dans l'atelier de charpente qui est juste ici où on est 40 stagiaires en tout, 10 en voilerie, 10 en sellerie et 20 en charpente. En charpente, il y a deux groupes de 10 en fait avec un formateur pour chaque groupe et chaque groupe s'occupe de construire un bateau. Cette année, les bateaux, c'est un sloop de l'île de Sein, donc un bateau de type pêche, un voilier, qui est fait tout en chaîne, et un autre bateau, un fleur d'ajon, donc un sloop de plaisance, qui est plus, comme son nom l'indique, de plaisance, donc plus racé, plus rapide, plus léger, et plus chic aussi, avec du vernis et des techniques plus modernes aussi, quoi. Je peux vous parler du stock de bois où en fait là il y a le sapelli qui est principalement utilisé pour le sloop qui est essentiellement utilisé par le sloop de plaisance et le chêne qui est utilisé par le sloop de l'île de Sein avec du chêne tor, donc des plateaux de bois de branches qui ont déjà une forme de S ou de L, des branches tordues en fait, des branches comme on voit tout le temps mais qui sont pas utilisées d'ordinaire en charpente je vais pas dire classique parce qu'en traditionnel ils utilisent aussi, mais d'ordinaire on voit des bits de bois toutes droites quoi, et ça arrange ceux qui débitent le bois et ceux qui les transportent. C'est plus simple de transporter un truc tout droit que des formes complètement alambiquées quoi. Et il y a aussi du résineux qui est utilisé pour les espars. Donc les espars c'est les mâts, les baumes, les bouts dehors, tout ce qui supporte les voiles. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour du bois.
Vous en êtes à l'étape finale de construction?
Ouais. Alors on a commencé en septembre et du coup là on finit le 29 juin. On a eu une semaine de plus parce qu'il y a eu un cas contact dans l'atelier. Mais on est dans le rush final. Comme tous les ans c'est un peu le rush. Et particulièrement cette année parce qu'ils sont assez gros les bateaux et c'est chaud. Mais ça va le faire. Là on est devant le fleur d'ajon, on voit les espars du fleur d'ajon qui sont tout vernis, donc on voit le mât qui est ici, la baume et la corne, je sais pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça, et donc les deux voiliers qu'on fait cette année c'est des gréements auriques, donc c'est un gréement traditionnel avec comme je disais une baume et une corne qui tiennent la grand voile et qui forment une espèce de trapèze. Et il peut y avoir une petite voile qu'on ajoute entre le mât et la corne qui monte en hauteur. On peut ajouter une petite voile qui c'est le flèche, qui permet de donner encore un peu plus de vitesse quoi.
Ça c'est l'atelier de voilerie qui
les et ouais justement ouais. Ouais, ouais bah c'est les voiliers qui font nos voiles. La différence c'est que nous on a un projet qui nous dure toute l'année. Eux les voiles ils font pas ça toute l'année parce que c'est assez vite fait. Et il y a aussi les celliers qui font un peu de cuir, de protection. Il doit y en avoir quelque part. Au bout là-bas, on voit qu'il y a du cuir pour protéger l'encorna. Donc ce qui vient se poser contre le mât. Il y a pas mal de frottements et du coup il y a du cuir qui est là en martyr. Quoi.
Et vu que vous n'êtes pas dans les mêmes ateliers physiquement, comment vous travaillez ensemble?
C'est les formateurs qui gèrent, qui s'échangent les plans, etc. Et en fait, ce qu'ils font pour nos bateaux, ça représente vraiment peut-être 5% de leur année. Quoi. Sinon ils font plein de commandes différentes.
Ah oui d'accord.
Nous, on est vraiment toute l'année sur le même projet et eux, ils font plein de commandes différentes pour d'autres bateaux, quoi.
Ok.
Dont les nôtres. Et donc là, on est sur le côté du fleur d'ajon. On peut voir qu'il est fini de calfater. et ils ont mis du mastic sur les coutures. Donc le calfatage, c'est la mise en place d'un cordon de coton ici, qui a été envoyé avec des outils qui datent du début de la construction du bateau en bois. On utilise en fait un fer à calfa et un maillet à calfa qui permet d'enfoncer dans la couture un cordon de ça peut être du coton, ça peut être du bitor, ça peut être de l'étoupe, il y a différents matériaux quoi. Et ce calfa en fait sert à fermer les planches qui sont normalement au mieux ajustées possible, mais ça vient rigidifier toute la structure de la coque, faire étanchéité. Et par-dessus, il y a du mastic pour protéger dans le temps, quoi. Et l'une des différences notables qu'il y a entre les deux bateaux, c'est que celui-ci, il est fait en membrure ployée. Donc c'est pas scié dans la forme du bois, mais c'est des membrures, donc les côtes du bateau, qui sont droites et qui sont passées dans une étuve pour être après formées adaptées à la forme du bateau, quoi. En fait, on peut voir une coque de bateau comme une cage thoracique, avec la colonne vertébrale, c'est la quille, avec les tambots à l'arrière et les traves à l'avant. Après, il y a les côtes. Donc les côtes, ça peut être, on peut dire que c'est la varangue qui forme la jonction justement entre la quille et les membrures. Donc la varangue et les membrures qui forment le reste de la côte, qui longe toute la coque et qui donne de la solidité à la structure, quoi. Et après, pour supporter le pont, il y a aussi des barreaux, donc le long des membrures, qui sont sous le pont, quoi. Et t'as d'autres renforceurs dans la longueur, t'as les lisses, les serres, enfin il y a des planches aussi à l'intérieur qui permettent de rigidifier tout le bateau, quoi. Il y a toute une structure, quoi. Il y a vraiment la peau et l'intérieur, quoi. Et ce bateau-là, ils ont fini de poser le pont. Donc le pont, il est supporté par les barreaux, c'est du CP. Donc des planches de CP, et par-dessus il y a des lattes de bois. Donc le CP est caché et il est là pour vraiment que ça soit étanche, parce que le pont, c'est un des trucs qui vieillit le moins bien sur un bateau. En fait, dès qu'on est dans l'eau de mer, le bois il se conserve beaucoup mieux, et c'est l'eau douce et les variations de température qui flinguent le bois, quoi. Ou ça pourrit aussi quand t'as de l'eau douce qui stagne et quand c'est humide et quand il n'y a pas de lumière, quoi. Et là ça peut pourrir. Mais sinon, en fait, quand c'est dans de l'eau mer, ça dure hyper longtemps, quoi.
Et vous récupérez aussi des bateaux pour les rénover?
Alors, non. La politique de l'atelier de l'enfer, c'est qu'on fait des bateaux neufs. Et l'idée, c'est que si tu sais faire un bateau neuf, t'as plutôt une bonne idée de comment faire pour faire les réparations, quoi. T'as déjà vu une fois comment on le faisait neuf, donc tu vois comment c'est fait, quoi. Mais c'est complètement différent et c'est hyper intéressant aussi la rénovation, parce que tu peux pas juste tout découper et... Enfin, faut savoir qu'est-ce qu'il faut retirer en déformant le moins possible le bateau, et des fois ça peut être délicat, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est un autre aspect du métier qui est vraiment intéressant, quoi. Et pour revenir sur le fleur d'ajon, il y a un roof qui est assez fin et qui lui a été fait en strip planking. Donc le dessus, c'est des lattes de bois qui ont été collés à l'époxy avec une certaine forme et qui ont été assemblés pour avoir la forme, une forme d'un capot, en fait, quoi. Donc là, on est devant les plans du fleur d'ajon. Donc c'est à partir de ceux-là, en fait, c'est des plans qui viennent du chasse-marée, et c'est à partir de ces plans-là qu'on est parti pour faire le bateau. Donc sur le plan, on voit ce à quoi va ressembler le bateau à la fin, avec un petit descriptif de son historique. Et en fait, on a surtout les vues avec les différentes coupes, donc vue de face et vue d'arrière, vue de côté, vue de dessus et dessous, et avec toutes les lignes qui s'entrecroisent. Donc en fait, t'as des lignes d'eau, t'as des couples et t'as des longitudinales, et en fait chaque ligne correspond à d'autres lignes sur les différentes vues. Il y a toute une connexion. Si tu modifies un point ici, ça va forcément changer la forme sur les autres vues, quoi. Tout est connecté, quoi.
Et chaque ligne correspond à une ligne de bois?
Non, c'est vraiment... c'est vraiment une forme, quoi. Par exemple, on voit les lignes d'eau, donc c'est horizontal.
Ouais.
Les lignes d'eau, elles ont un espace régulier entre chaque. C'est comme si c'était des coupes.
D'accord.
Et en fait, les lignes d'eau qu'on voit de manière horizontale là, ça devient des courbes, vues de dessus et vues de dessous, quoi.
Ah oui.
Et c'est là en fait où tu vas de côté et il faut essayer de visualiser en 3D ce que ça donne. Si tu coupes, à quoi ça va ressembler si tu changes de point de vue. Enfin, en fait, c'est là où c'est hyper intéressant. Tout ce qu'on appelle le tracé, c'est vraiment hyper intéressant. Et c'était un truc qui était plutôt réservé aux patrons des chantiers et maîtrisé par les patrons. Et en fait, historiquement, tu commençais dans la charpente de marine. Au début, tu étais apprenti, tu faisais des petits trucs, etc. Et en fait, là, en une année, on commence directement par le tracé. Donc, et on fait des bateaux d'œufs. Donc, c'est une méga chance.
Autonome,
quoi. Autonome, je dirais pas, mais... Et on a la chance de faire des trucs assez facilement qui traditionnellement étaient plutôt réservés aux patrons ou alors il fallait avoir fait pas mal d'années d'apprentissage pour arriver là-dedans quoi. Okay. Et voilà.
Vous passez directement des plans au modèle réel ou vous faites des modèles réduits ou...
Alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on est passé directement du plan à un plan à l'échelle réelle. Donc en fait tu vois le plan là et tu l'imagines sur des. On utilise des planches de CP peint en blanc. Et on fait les tracés à l'échelle 1. Donc en fait toute la taille là sur 8 planches de CP avec les 3 vues différentes. Quoi. Donc pour le nôtre, donc le souk de l'île de Saint, ça s'entrecroisait, il n'y avait pas assez de place sur le CP et ça peut être assez compliqué des fois de garder le sens du dessin alors que tout s'entrecroise. T'as plein de lignes dans tous les sens. Quoi. Mais encore une fois, c'est hyper intéressant. Et après, pour répondre à la question, traditionnellement, en fait, ils passaient pas forcément par les plans de forme. Ils utilisaient des demi-coques. Donc c'est ce qu'on voit dans les petits tableaux, des fois en exposition, un peu en mode esthétique. Mais en fait, à l'époque, le patron de chantier, il taillait sa demi-coque, il s'accordait avec le client en mode « bon, tu préfères un peu plus de forme à l'avant, plus de forme à l'arrière ». Et une fois que c'était convenu, il découpait en planchette sa demi-coque. Et il traçait un plan à partir de ça. Quoi. Donc en fait, toutes les demi-coques qu'on voit maintenant, c'est vraiment la décoration, mais en fait, c'était un outil de travail avant. Quoi. C'était l'ancêtre du plan en 3D numérique, ce qu'on peut trouver maintenant. Quoi. Pour le deuxième bateau, c'est un sloop de l'île de Saint. Donc c'est un bateau qui pêchait la langouste dans les environs de l'île de Saint, qui avait un vivier à bord. Donc un vivier, c'est un réservoir d'eau. Et où les crustacés étaient mis dedans. Et en fait, à l'époque, il y avait des trous dans la coque qui communiquaient. En fait, le vivier communiquait avec l'eau de mer extérieure et ça faisait un lest liquide. Ça stabilisait le bateau en fait d'avoir cette masse d'eau dans le bateau quoi. Ça faisait double sens quoi. Ouais, carrément. Et donc nous, on n'a pas de vivier. À la place, on a un lest externe qui est ici, qui est en plomb. Et en plus, on aura des gueuses, donc du poids qui va être mis dans les fonds en plus quoi.
Un bateau de pêche qui va être employé pour la pêche?
Non, ça va être un bateau qui va remplacer un autre bateau qui est trop vieux et qui va naviguer dans le golfe du Morbihan. Donc pour une association. Et celui-ci est motorisé, l'autre non. Et ce qu'on entend là, c'est quelqu'un qui est en train de calfater. Nous, on est à l'étape du calfatage. On a fermé le bateau. Et il manque encore le pont, mais toute la structure est prête et il y a encore pas mal de taf.
Les prochaines étapes, c'est quoi du coup?
Alors, il y en a qui travaillent sur le safran, il y en a qui travaillent sur les plats-bords lisses, donc c'est sur le dessus, c'est en fait là où tu poses tes mains quand t'es à bord, sur le côté quoi. Ouais. Donc c'est une grosse planche qui est posée sur le dessus quoi. Il y en a qui travaillent sur lissage de la coque. Et le calfatage. Et il y en a pas mal qui révisent pour les examens la semaine prochaine. Voilà. Et du coup, l'une des particularités de ce bateau, c'est qu'il est en membrure chantournée, donc c'est un peu plus traditionnel. Donc en fait, le bois, c'est comme du tissu, il y a un sens dans le fil. Si tu le forces dans un sens ou dans l'autre, il y a un sens où il se déchire et il y a un sens où il est plutôt solide. Donc en fait, pour avoir la forme de. Des membrures, donc les côtes de la cage thoracique du bateau quoi. On va chercher dans les planches de bois, des planches de bois qui ont une certaine forme et qui correspondent à la pièce qu'on cherche. Donc en fait on utilise du bois tordu, du bois qui est déjà naturellement tordu. Et comme une fois qu'on. En fait on part du plan, on fait les gabarits. Avec les gabarits, on recherche la pièce dans le bois disponible et après on usine la pièce. Et en fait, les membrures, tout le long des membrures, tu as des angles évolutifs Tu peux pas juste prendre une scie avec un angle constant et donner un coup de scie. L'angle il change tout le temps. Et du coup, il y a un des outils spécifiques de la charpente de marine, c'est la scie à ruban. Donc c'est deux volants qui entraînent une scie continue. La scie elle fait tout le tour. T'as un volant ici, un volant en haut, et la scie elle fait tout le tour. T'as un moteur qui entraîne la scie. Et en fait, la particularité, c'est qu'elle est inclinable. Donc en fait, tu peux scier, et il y a une autre personne qui est au volant là-bas. Tu dis quels angles t'as envie de faire pour ta pièce, et il tourne le volant et ça bouge. Donc en fait, tu peux faire des angles évolutifs en même temps que scier, quoi. Et ça, c'est un des trucs de charpente de marine.
Le petit message sur la scie, c'est pour qui?
Allez, Malherbe. Je pense que c'est Karl qui vient de Caen qui a fait ça, quoi. C'est pour nous, quoi. Après, les autres machines, c'est un peu plus classique à la charpente en général. Donc, il y a une toupie. C'est un outil qui a un peu mauvaise réputation, mais c'est un outil qui met en rotation. Et comment dire, c'est une toupie dans le sens où tu as un porte-outil qui est mis en rotation. Et en fait, tu viens appliquer ta pièce le long et... T'as plusieurs types d'outils que tu peux utiliser, mais en gros, c'est un truc qui tourne sur un plateau, quoi.
D'accord.
Voilà. C'est hyper clair. Mais sinon, il y a le coin mécanique, avec des scies à ruban, de quoi découper le métal, de quoi affûter. Et raboteuse, dégauchisseuse, scie à format. Et une autre scie à ruban là-bas, mais celle-là, elle n'est pas inclinable. Et voilà. Et
ça, vous travaillez principalement sur ces machines?
Sur ces machines, ouais. Ouais, carrément.
Et c'est... Est-ce que vous gardez quand même une part du travail manuel? Enfin, le...
Il y a plein de gestes qu'on peut pas changer, t'es obligé de faire à la main, du... le calfatage,
ouais.
par excellence. Et personnellement, moi au début je me disais ouais non c'est trop cool de le faire à la main, etc. Et c'est vrai que c'est trop cool et il y en a qui travaillent que à la main et c'est trop classe. Mais c'est aussi un gain de temps quand tu maîtrises les outils électriques et en fait dans les chantiers professionnels. La plupart du temps, c'est à l'électrique, etc. Et ça envoie du bois parce qu'il faut y aller, quoi. Et c'est aussi hyper intéressant et satisfaisant d'utiliser l'électrique, en fait. Moi, j'étais un peu anti ça au début, et petit à petit, si tu maîtrises, c'est trop cool, quoi.
Ouais, grave.
Mais c'est clair que de pouvoir débarquer sur un bateau sans électricité, c'est trop bien aussi, quoi. En fait, faut maîtriser les deux, quoi.
Thank you. Vous écoutez Marine sur Radio U.
Aujourd'hui dans Marine, nous sommes en compagnie de Mathis Delmer, en formation à l'École nationale supérieure maritime et en année de césure aux ateliers de l'Enfer. Ensemble, nous découvrons le monde de la construction navale, le travail du bois et le goût de la vie en mer.
Dans le marché de la charpente de marine, t'as deux trucs, t'as la plaisance et la pêche. Jusqu'à 15 mètres, les bateaux de pêche ils sont plutôt intéressants en bois. Donc au lieu du plastique ou du métal, en fait... le bois pour des caractéristiques thermiques et sonores et au niveau facilité de réparation. Et il y a pas mal de patrons pêcheurs qui choisissent de faire des bateaux en bois, quoi. Quand tu te promènes dans les ports, au Guilvinec ou même à Douarn, c'est jusqu'à 15 mètres à peu près, t'as la moitié des bateaux qui sont en bois, quoi. Ouais. Et justement, t'as ces deux marchés-là qui sont assez différents, où la plaisance c'est vraiment finition, faut que le bateau soit propre. Et en plus t'as la plaisance mais pour les gros standing où là c'est vraiment c'est du travail de luxe, c'est ce qu'on appelle les voiles classiques. Donc ce que fait par exemple le GIP ou dans le sud, il y en a pas mal les voiles classiques. Et t'as aussi du coup la pêche où là c'est des bateaux, en fait t'as le patron pêcheur qui est derrière toi en mode bon, bah, c'est con qu'il est fini et il faut envoyer, il faut que ça soit pratique plus que joli, mais ça reste des beaux bateaux, hein, mais ça envoie, quoi. C'est des gros échantillonnages, c'est des trucs solides, c'est vraiment deux métiers, deux aspects bien différents, quoi. Ouais. Mais trop intéressant les deux.
En tant que charpentier de marine, vous travaillez le bois. Est-ce que vous travaillez seulement sur la construction de voiliers ou sur d'autres types de bateaux?
Ouais, c'est essentiellement des voiliers, mais tu as aussi des les bateaux de pêche, il n'y a plus de voile du tout, par exemple. C'est des gros moteurs et il n'y a plus aucune voile. Et là, pour les ateliers de l'Enfer, il y a 2 ans, c'était un bateau à vapeur qu'ils ont construit, quoi. Mais sinon, c'est quand même plutôt des voiliers, ouais.
Tu nous as présenté un peu les différentes variétés de bois que vous pouvez utiliser dans l'atelier. Est-ce que ce sont des variétés qui ont des propriétés particulières, par exemple qui flottent plus que d'autres types de bois, qui moisissent moins rapidement?
Eh bah, ben ouais, carrément. Par exemple, le chêne, c'est le bois de charpente de marine par excellence, qui est quasiment imputrescible quand il est en contact avec l'eau de mer, en fait.
Ouais.
Après, il y a d'autres bois qui ont d'autres caractéristiques qui sont plus chères, comme le teck, par exemple. On parle souvent de pont en teck. C'est un bois qui bouge pas trop, mais par contre qui est vraiment cher, quoi. Donc, il bouge pas trop dans le sens où il travaille pas. Par exemple, quand tu poses ton pont, si tu fais toutes les coutures étanches, etc., et qu'en fait ton bois il bouge avec le soleil et avec le temps et avec l'humidité, et bah, toutes tes coutures elles sont plus étanches et ton pont il commence à laisser passer de l'eau douce. Et en fait, l'eau douce, c'est le danger le plus gros pour le bateau, quoi. Et en fait, selon les endroits du bateau, selon le type de bateau, t'as des bois différents. En fait, tout ce qu'on utilise pour les œuvres vives, donc c'est les parties du bateau qui sont dans l'eau. Là, on utilise du bois un peu tressible. Et puis après, pour les œuvres mortes, on peut utiliser du bois plus léger pour alléger les hauts du bateau pour avoir une meilleure stabilité. Bah, ça, c'est vrai pour les énormes bateaux, mais en général, c'est ce qui se fait quand même, quoi.
Et d'un point de vue bilan carbone, tu penses que un bateau en bois consomme moins d'énergie en tout qu'un bateau peut-être en plastique ou en métal?
Alors, j'ai pas du tout les chiffres, mais je pense que c'est sûr. Mais par contre, faut pas se leurrer en disant que le bois c'est parfait, dans le sens où ce qui se passe en France, en fait, toutes les forêts, elles sont en train de passer du chêne. Où c'est du bois qui met longtemps à pousser, avec une biodiversité qui est particulière et qui capte mieux le CO2 que des résineux, à justement être remplacé par des résineux qui poussent plus vite, plus droit, donc plus facile à usiner pour les vendeurs de bois. Et en fait, ils utilisent une technique qui s'appelle la coupe rase, donc ils laissent pousser 40 ans, après ils coupent tout, ils laissent pousser, et en fait, il n'y a plus de biodiversité, quoi. Et ça capte moins bien le CO2, et du coup, ouais, voilà, c'est super le bois, mais il y a aussi des côtés moins fun, ou même par exemple l'un des deux bateaux là, il est fait en bois exotique, donc c'est du bois qui vient des forêts tropicales, ouais. Donc niveau bilan carbone, c'est pas ouf non plus, quoi.
Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer quels choix t'ont amené à suivre cette formation de charpentier de marine?
Alors moi, c'est en arrivant sur l'île de Groix où je me suis dit ouais, en fait la mer c'est vraiment cool, et en rencontrant plusieurs personnes qui étaient marins, enfin ça m'a vraiment plu. Et à partir de là, j'ai commencé à naviguer sur des vieux gréements. Et petit à petit, ça m'a mené à la marine marchande, à l'UNSM, l'école pour faire officier sur les cargos. Et j'ai décidé de faire une année de césure en charpente de marine, après avoir rencontré un marin qui est passé par les ateliers de l'enfer aussi, mais après avoir fait une carrière d'officier, et qui a son chantier à Camaret-sur-Mer. Ouais. Et du coup, après cette rencontre, et en plus avec la possibilité de faire cette année de césure, je me suis dit, allez, les ateliers de l'enfer. Du coup, j'ai postulé. Après, ce qui est pas mal pour faire les ateliers de l'enfer, c'est d'avoir fait un peu de charpente ou de menuiserie, d'avoir déjà travaillé le bois avant, ce qui n'était pas le cas pour moi. Du coup, j'ai vraiment blindé toutes les connaissances théoriques possibles, quoi. Et bon, moi, je suis là, du coup, c'est passé, quoi.
Voilà. Donc, tu suis aussi une formation à l'École nationale supérieure maritime. En quoi ça consiste, en quelques mots ?
Alors, cette école-là, c'est une école qui permet de devenir officier à bord des cargos. Donc, officier, ça regroupe lieutenant, second capitaine, capitaine. Donc ça, c'est pour le service à la passerelle. Et à la machine, t'as troisième mécanicien, second mécanicien, chef mécanicien. Après, selon les bateaux, t'as d'autres postes qui s'incrustent, mais le squelette global, c'est ça. Et t'as au sein de l'école, le NSM, anciennement l'Hydro, t'as plusieurs formations. T'as la formation polyvalente en 5 ans et demi, où en fait là tu sors avec les deux casquettes, machine, passerelle. T'as une formation en 3 ans où tu fais uniquement de la passerelle, et une formation en 3 ans aussi où tu fais uniquement de la machine. Et il y a une autre formation où en gros, quand t'as fait 3 ans de polyvalent, tu peux dire, bon en fait naviguer, je sais pas trop envie, tu peux devenir ingénieur offshore. Et ça c'est à Nantes, pendant 2 ans il me semble, quoi.
Okay. Et les gros employeurs, quand tu sors de cette école-là, c'est qui ?
Y a la grosse compagnie française, c'est CMA-CGM. Ouais. Donc eux, ils transportent à fond des porte-conteneurs tout autour du monde. Après, moi, j'ai fait tous mes temps d'élève chez Louis Dreyfus Armateur. Eux, c'est plutôt des couteaux suisses. Ils ont plein de types de bateaux différents et plutôt des bateaux de travail. Il y a aussi des bateaux de recherche scientifique, il y a aussi des bateaux avec Genavir. C'est Ifremer qui est l'armateur de Genavir.
Okay.
Et Genavir qui s'occupe des bateaux, quoi.
Ouais, Loïc nous avait dit ça.
Et donc t'as du scientifique, t'as du transport de passagers avec la compagnie du Ponant. Là je parle des plus grosses, après t'as plein de petits bateaux. T'as aussi du transport de pétrole, de gaz avec Gaz Océan. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs, quoi. Et il y a aussi toute une partie de la marine marchande qui est pas trop connue dans le cas de l'école, mais où en fait c'est comme c'est tous les petits bateaux, les petits plans de cargo à voile ou de trucs comme ça qui sont un peu un autre visage de la marine marchande, quoi.
Oui.
Moins dans l'industrie lourde, quoi.
Sur un gros cargo, je me rends peut-être pas compte, mais l'équipe, vous êtes combien en fait à bord pour gérer un gros cargo ?
Eh ben, ça dépend du cargo. Si c'est un énorme bateau de 400 mètres qui se transporte un porte-conteneur par exemple, ils sont pas tant que ça à bord, ils sont genre une quinzaine.
Ouais.
Parce que tout est automatisé, il y a le gros moteur qui... Enfin, il y a l'équipe pont et machine, et c'est réparti. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde en fait pour faire naviguer cet énorme bateau. Et à l'inverse, t'as des bateaux plus petits, des bateaux de travail, où en fait là t'as des techniciens, des scientifiques, où des fois il faut que tu puisses accueillir du monde qui vienne travailler sur les bateaux, où là tu peux monter à 60-70 personnes pour des bateaux qui font 140 mètres. Et après t'as les paquebots où là t'as une ville flottante, quoi. Enfin, ça dépend vraiment du bateau. Mais les équipages en fait ils sont assez réduits. Comparé, à l'époque où c'est des gros cargos à voile, où là il fallait du monde dans les mâts et tout, c'est plus grand chose, quoi.
Et toi, avant de commencer cette formation là, ou sur ton temps libre, tu navigues ?
Moi j'ai jamais autant navigué que cette année aux ateliers de l'enfer.
Okay.
Donc en fait on a les bateaux, les invendus des ateliers de l'enfer qui restent à disposition des stagiaires. Et c'est des chouettes bateaux. Y a un macrotier, il y a un bateau, c'est un plan sergent. Et en fait, on peut les utiliser autant qu'on veut. Et si on les casse, on les répare. Enfin, c'est assez. Au début, ils nous sondent un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, ils nous font confiance. Et puis, on sort. Là, on sort quasiment tous les soirs avec les bateaux. C'est trop cool.
C'est génial. Et ton année de césure ici, est-ce que ça va t'apporter des compétences en plus pour ta formation dans la marine marchande?
C'est en plus, c'est vraiment deux métiers complètement différents. Et puis c'est des bateaux en métal en fait, sur les gros cargos. Mais je pense que quand même, avoir une meilleure idée de comment travailler avec tes mains, ça peut que aider, quoi. Mmh.
Et
ouais, voilà.
Ok. Et juste pour nous donner une idée, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en formation aux ateliers de l'enfer?
Alors cette année, il y en a 2 sur 20 en charpente, en sellerie et voilerie. Je sais plus les chiffres, mais c'est plus moitié-moitié, il me semble. Mais ça dépend des années. Je sais que l'année dernière en charpente... c'était il y a quelques années, il y a un article qui traîne dans le... où en fait c'était moitié-moitié en charpente, quoi. Mais ouais. Après, il y a des trucs un peu aberrants. Je sais qu'il y a des chantiers qui prennent pas de filles, par exemple.
Ah oui.
Pour des histoires de toilettes, de... enfin des trucs, en fait, c'est des prétextes, peut-être, j'en sais rien, mais... Enfin, ouais, des fois, il y a quand même des trucs... Comme partout, il y a du travail, quoi.
Oui, mais surtout dans les métiers liés à la mer.
Après, en marine marchande, c'est plutôt... Il n'y a pas de problème d'égalité de salaire, les femmes sont reconnues au travail, il y a quand même toujours des problèmes, c'est jamais parfait, etc., mais après c'est ma vision d'homme que j'ai là, donc il y a peut-être des trucs que je me rends pas compte, mais je trouve quand même que voilà, la femme elle a fait sa place, quoi. On parle plus de la femme porte malheur à bord, quoi. Ça c'est fini depuis longtemps, quoi. Au contraire.
Tu t'es installé dans la ville de Douarnenez pour suivre cette formation aux ateliers de l'enfer. Quelles sont tes impressions de cette ville du Finistère Sud?
C'est une super ville. En fait, de ce que j'ai compris, les ateliers de l'enfer, c'est un petit vivier. Il y a pas mal, dans tous les stagiaires, il y en a forcément une partie qui reviennent s'installer à Douarnenez, parce que ça marque quand même. Il y a plein d'activités. C'est une ville qui est tournée pas mal vers le maritime. Il y a plein de chantiers. Il y a une belle énergie. Et malgré le Covid, en fait, on était quand même pas mal ici, quoi. Genre, il y a plein de trucs à faire.
Tu trouves que c'est une ville maritime parce que... son passé c'était l'industrie, la transformation des sardines. Aujourd'hui c'est plus un pôle culturel, mais est-ce qu'il y a toujours cette place de peut-être de la pêche ou de la plaisance qui est que tu ressens?
La pêche, il n'y a plus grand chose, même s'il y a toujours le port de pêche à Douarnenez comparé à la flottille de sardiniers. Il n'y a plus grand chose, quoi. Et après c'est des techniques de pêche différentes, donc mais tu as des images d'archives au port musée où tu vois des nuées de bateaux, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et ouais, c'est une ville maritime dans le sens où les ateliers de l'enfer, le chasse-marée, le port musée, c'est de la même équipe qui a monté un peu tout ça, quoi. Et les bouquins aussi qui s'appellent Arvag, qui sont les encyclopédies de la voile au travail, qui sont hyper complets, et qu'on fait tout un travail d'archives, de remise au bout du jour du patrimoine maritime, quoi. Et en plus, il y a pas mal de cargos, de transports à la voile qui viennent régulièrement. Là, il y a l'Aventour qui est arrivé tout à l'heure.
Okay.
Et il y a le Gréhand, le Galante, qui donne un peu une âme. Tu vois les gens débarquer leur marchandise à la main et tout, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal, quoi. Plus tous les bateaux du port musée qui sont dans le port rue. Enfin, il y a vraiment un truc. Et il y a l'association Trésor aussi, qui ont construit une chaloupe et qui ont construit une deuxième. Et eux, ils sortent tout le temps, je crois. Ils doivent avoir le record de bateaux associatifs qui sortent, qui font des sorties, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper beau, quoi. Et c'est une chaloupe, c'était ce qui est utilisé pour la pêche à la sardine à l'époque, quoi.
Ok. Et toi, tes projets pour les prochaines années, c'est quoi?
Alors du coup, cet été, c'est pas encore clair. En septembre, je retourne au Havre pour finir ma marine marchande. Après, je pense que je vais naviguer pas mal dans la marine marchande lourde, donc chez LDA, je pense. Et après, on verra bien. Peut-être profiter du fait que c'est le rythme de marin, c'est 2 mois en mer, 2 mois à terre pour les Français. Et profiter du fait qu'il y ait ces mois à terre, peut-être pour travailler en charpente. Et peut-être un jour, j'en aurai marre de naviguer, je ferai un chantier, j'en sais rien, ou je travaillerai plus à terre, je sais pas. Et il y a aussi un autre truc qui me botte, c'est l'architecture navale, là. Et il y a une bonne formation à Nantes, je suis en train de regarder un peu. Enfin, il y a plein de trucs à faire, en fait, quoi. Mais en fait, tous ensemble, là, c'est...
C'est assez complémentaire.
Bah ouais, J'ai l'impression que si tu... Enfin, c'est vraiment personnel, hein, mais c'est dans le cadre d'être marin, quoi, de construire, naviguer, les moteurs. Enfin, oui. C'est tout un univers qui, moi, me plaît, quoi.
Pour conclure, est-ce que tu aurais des références, que ce soit des livres, des podcasts ou des films que tu aimerais bien nous partager?
Alors, des livres, j'ai un peu arrêté de lire, mais j'ai réussi à relire un livre qui était... Bah, c'est un truc assez classique, mais c'est le livre de Joshua Slocum. C'est « Seul autour du monde ». Où en fait, c'est un gars de la marine marchande, un Américain qui a construit son bateau et qui a fait le tour du monde dans un sens assez particulier. Je crois qu'il est parti des États-Unis, après il allait aux Açores, après il allait au Brésil. Il a fait le tour du Cap Horn, il a fait une espèce de boucle au Cap Horn parce qu'il allait du mauvais temps. Ouais. Donc en fait, il a passé deux fois le Cap Horn. Après, il est remonté par l'Australie et l'Inde, l'Afrique, enfin voilà. Et du coup, ce bouquin-là, il m'a pas mal aidé. Et ouais, et c'est dans les premiers voyageurs autour du monde, quoi. Et en film, moi j'aime bien les vieux films, du style où il n'y a pas encore trop d'effets spéciaux, et tous les effets, en fait, c'est des maquettes, ou alors c'est des figurants, en fait. Il n'y a pas de 3D et tout. Et du coup, il y en a un en particulier, il y en a deux même, le phare du bout du monde. Celui-là, il est vraiment joli, quoi. Et l'autre, c'est Pirate, mais alors je sais plus qui l'a fait, mais pareil, c'est deux films en fait de 1980, un truc comme ça, et il y a zéro figurant, enfin c'est que des figurants, il y a zéro 3D et tout, enfin c'est trop marrant, quoi.
Merci en tout cas, Mathis.
Ben, ça a été un plaisir.
Pour creuser le sujet, nous vous suggérons de rester à l'affût des actions de l'association Trésor autour du port-musée de Douarnenez, de feuilleter la collection Arvaille sur les métiers de la voile en Bretagne et de participer aux prochaines fêtes maritimes sur Brest en 2024. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio U où sont publiés tous nos épisodes. À la réalisation, Brieux Calonnec, Jody Kimberley Grolier et Emmanuel Saïquet. À bientôt.